C'est en 1945 à New York que le magazine World de février publie un article sur Fulton Whistler. Je vous cite un bref extrait. On dit que Whistler a traqué et capturé plus de 300 malfaiteurs. Parmi eux, Pretty Boy Floyd, le fameux Pretty Boy Floyd, le bandit moderne du Wild West. C'est avec Hoffman, ajoute l'article, gouverneur du New Jersey, qu'il a enquêté sur le kidnapping du fameux bébé Lindbergh. Vous vous souvenez, les gens plus âgés, hein, combien ça avait remué le monde entier, l'enlèvement de cet homme qui avait traversé l'Atlantique en avion, hein, Lindbergh. L'article continue en disant, il a recherché les racketeers avec Dewey, l'actuel gouverneur de New York. Stark, gouverneur du Missouri, lui a envoyé une lettre de remerciement pour l'avoir aidé à mettre Boss Pendergast sous les verrous. En outre, l'Académie nationale du FBI a invité Whistler à donner un cours sur les méthodes de déduction criminelle. Il a traité aussi de l'espionnage et de l'arrestation des espions. Il est membre d'honneur de l'Association internationale des chefs de police et représentant d'honneur du commandant de police américain du district du Massachusetts. Un personnage, ce n'est qu'une partie de cet homme, absolument phénoménal, vous allez voir. Hein. Sur le témoignage donc de ces personnes, je pense qu'on peut admettre qu'Whistler avait les trois qualités d'un vrai détective. Le flair, il avait aussi l'esprit logique, et en plus bien le don de la psychologie. Mais en bon détective, ses réflexions, fort judicieuses, lui faisaient établir un lien logique entre les signes puis les faits. Hein. C'était un connaisseur d'hommes avisés. Il découvrait facilement les mobiles qui avaient poussé à accomplir telle action secrète. Puis en faisant cela, bien, il identifiait la personne recherchée. Mais Whistler était un libre penseur, un agnostique, décidé même, je pourrais dire, un athée. Il écrit d'ailleurs à 45 ans, « Sceptique bon enfant, je ne croyais pas en l'existence de Jésus-Christ. Son histoire était pour moi une merveilleuse légende. » C'est alors cependant que durant une croisière d'agrément en Méditerranée qu'il fait avec sa femme, d'ailleurs, tout à coup, à lui aussi, il sent cette question au fond de son cœur, hein? Le Christ qui lui pose la question capitale, « Toi, qui dis-tu que je suis ?» Et le Christ ne lâche plus Fulton Whistler. Mais Whistler ne lâche plus Christ, lui. Pendant 10 ans, oui, 10 ans, Fulton Whistler cherche. Il réfléchit, il prie, jusqu'au jour où il finit par reconnaître ceci. Il l'écrit d'ailleurs dans un livre. Dieu qui créa le temps et l'espace où se meuvent par millions des soleils, des lunes et des étoiles, s'est fait homme comme nous. Sur cette poussière microscopique qu'est notre planète, il est demeuré 33 ans. À la fois homme véritable, le seul homme parfait et réellement Dieu. Il est né dans une étable, il a vécu comme un ouvrier, puis il est mort sur une croix. Il est venu nous montrer comment vivre, non pas quelque temps, mais pendant toute l'éternité. Alors Whistler écrit cela dans l'introduction de son premier livre catholique, L'Histoire de Jésus, la plus grande vie qui fut jamais racontée. « The greatest story ever told », on entendait parler ça de moi dans mon enfance continuellement, tellement c'était populaire. Pour le récompenser, eh bien le Christ met Fulton sur une piste bien difficile jusqu'à ce qu'il lui dise enfin « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Alors, quel était donc le métier d'Whistler? Est-ce que c'était un détective? Bien non, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'était de l'amateurisme de sa part. C'était surtout un écrivain, puis un éditeur, c'était là son métier, puis il était animateur de radio. Alors je commence par, je le prends à 17 ans. C'était absolument phénoménal. Fulton Whistler est devenu reporter au Baltimore American dans sa ville natale. Oui, il est né à Baltimore, aux États-Unis. Baltimore, comme on dit. Et un beau jour, il assiste à un concert de Fritz Kreisler. Qui connaît pas Fritz Kreisler? C'est cet incroyable violoniste. Puis il avait une mission, quoi, de faire la critique. Et ce n'est qu'après le concert que ce jeune reporter de 17 ans se rend compte qu'il n'entend absolument rien à la musique, vraiment. Il cherche Chrysler, il le trouve au vestiaire, il lui expose son embarras. Puis il demande donc à ce virtuose de l'aider à rédiger une critique sérieuse, où il pourrait insister spécialement sur toutes les fautes que le musicien a commises. Chrysler est complètement surpris de la chose, mais il trouve ça drôle. Alors il note jusqu'à ses plus petites erreurs musicales, là, que probablement personne n'a remarqué. Et cette critique absolument brillante lance le jeune Horsler de 17 ans dans la carrière de reporter. Je peux vous dire en passant que Chrysler, qui était né à Vienne, ne s'est converti également au catholicisme. Je crois qu'il était juif. Horsler part pour New York, où il devient rédacteur du fameux Music Trade Journal. Et de temps en temps, il écrit des nouvelles, c'est-à-dire des courts récits. Des nouvelles, c'est ça que ça veut dire, des courts récits, des espèces de petits romans, si vous préférez, pour les magazines de McFadden, c'était le titan des éditeurs à l'époque. McFadden Publications édite 11 magazines mensuels, puis aussi l'hebdomadaire Liberty, qui était si populaire dans ce temps-là. Je me souviens de tout ça, ça me ramène à ma jeunesse. Et ses publications tirent ensemble à 16 millions d'exemplaires par mois, ce qui était considérable à l'époque. McFadden découvre le talent d'Horsler. Puis il lui propose le poste d'éditeur assistant de sa firme. Alors Horsler accepte et bientôt, il se rend compte que son patron ne lui donne quasiment pas de travail, alors il s'ennuie. Et sous le pseudonyme d'Anthony Abbott, A-B-O-T-T, Abbott, il se met à écrire des romans policiers qui deviennent fameux. Un jour, son patron, l'éditeur, trouve un billet sur son... C'est-à-dire, Horsler trouve un billet sur son bureau, plutôt, il dit « Vous assumerez la direction des éditions jusqu'à mon retour. » Alors, il décide de le faire. Alors là, il dirige les éditions de McFadden, qui sont énormes, jusqu'en 1942. En 1941, il devient même vice-président du conseil d'administration. Il y a énormément de talent. Mais c'est un précurseur. Remarquez bien comment il travaille. Il a un génie d'organisation, une habileté à diriger les affaires. Il passe la majeure partie de son temps où? À sa maison de campagne de Cape Cod, au Massachusetts. Vous savez, Cape Cod, ce grand cap qui s'avance dans l'Atlantique, là. C'est magnifique, Cape Cod, hein? Et c'est de là que chaque jour, il envoie ses ordres à son staff de New York par télétype et en de brèves formules télégraphiques. Alors, depuis Cape Cod, il dirige aussi la publication de l'hebdomadaire Liberty, puis d'une douzaine de magazines. Et tous les 15 jours, il va faire un petit tour dans ses bureaux de New York. Alors, il travaille comme on travaille beaucoup aujourd'hui, hein? On travaille à domicile. Et son domaine de Cape Cod est absolument unique au monde. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a d'unique? Imaginez, il y a un parc assez vaste. Il n'y a pas une seule plante ornementale, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'arbres fruitiers, puis il n'y a pas de légumes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Une collection presque complète des plantes et des arbres vénéneux des 5 continents. C'est absolument incroyable, hein? Pourquoi? C'est que toujours comme détective amateur, il désire étudier les poisons de très près. Alors, ni son travail de directeur des 11 principaux magazines mensuels des États-Unis et d'un des plus grands hebdomadaires, ni l'arrestation de quelques 300 gangsters n'épuise sa puissance de travail. Fulton Horsler écrit 300 livres. C'est absolument phénoménal, hein? Je vais vous parler plus loin des ouvrages qui suivront sa conversion. Avant sa conversion, il compose surtout des romans policiers, n'est-ce pas? Puis il les publie, comme je vous l'ai dit, sous le pseudonyme d'Anthony Abbott. Puis un beau jour, le président Roosevelt, qui les lit, il lui a proposé en riant l'idée d'un roman policier original. Cette idée, Horsler la réalise, c'est l'histoire mystérieuse du président. Mysterious Story of the President, qui paraît dans une livraison du Liberty. Et plus tard, elle inspire un film d'ailleurs. Horsler écrit aussi des tas de scénarios de films, des quantités de pièces de théâtre, dont The Spider, l'araignée, qui tient la scène plus d'un an dans un théâtre du Broadway. C'est une pièce policière, je vous la résume en cinq lignes, c'est absolument fantastique, ça devrait être monté à Montréal. La lumière s'éteint dans la salle. Et séance tenante, un spectateur est assassiné. Alors on ferme les portes. La police se rue à l'intérieur. Puis garde toutes les issues. Personne ne peut sortir, alors on arrête des spectateurs. Un détective les interroge sur place, jusqu'à ce qu'on découvre le vrai coupable. Et là-dessus, on peut retourner chez soi, la pièce est finie. Sympathique. À la radio, Osler commente souvent les nouvelles de l'étranger. Et après sa conversion, il parle régulièrement à l'heure catholique, Catholic Hour, de la NBC, National Broadcasting Company. Ses marottes, c'est d'être ventriloque, puis de faire toutes sortes de jongleries. Il est membre de la Société des prestidigitateurs américains, et il est l'auteur de trucs devenus célèbres d'ailleurs. Mais malheureusement, avant sa conversion, il fait aussi de la magie pendant longtemps. Ça, c'est pas que ce soit mauvais, mais ça l'amène, n'est-ce pas? De toute façon, il a traduit, imaginez, de l'allemand qu'il a appris, Das Wunderbuch der Zauberkunst. C'est le livre extraordinaire de la magie sous le titre de Illustrated Magic en 1936. Il écrit à ce sujet, l'étude des sciences et de la religion me conduisit au bout de 10 ans au bahaïsme, vous savez les bahaïs, et au zoroastrisme, la religion du Zoroastre. J'ai même attendu l'apparition d'esprits pendant des séances dans les chambres obscures de médium spirit. Alors c'est un globe-trotter devant l'éternel, il parcourt les 5 continents et partout il se lie d'amitié avec les grands de ce monde. Écoutez ça, c'est fantastique. C'est ainsi qu'il est reçu en Chine par Madame Chiang Kai-shek. Il lui demande si la Chine possédait ses propres parfums. Alors la présidente ne répond pas. Mais le soir, Fulton, Osler trouve dans sa chambre d'hôtel une caisse de 17 flacons qui viennent de la part de Madame Chiang Kai-shek. Il y a là une variété vraiment magnifique de parfums, de bois de santal, de 17 provinces chinoises. C'était pas une question aussi ridicule qu'on pouvait le croire, hein? Et c'était pas lancé uniquement pour entretenir la conversation. Alors, Osler a à New York un frère, ben oui, qui est grossiste en parfums. Et enfin, Fulton, qui lui est un abstinent intégral et fanatique, il dirige une association de repêchage financier, assez discret, là, des alcooliques qui sont ruinés, qui ont tout perdu. Il préside aussi le fonds Carnegie pour les écrivains nécessiteux. En plus de tout cela, il trouve le temps. Et comment, voilà la question, on se le demande, d'être un époux, un père de 4 enfants. Il y a 2 fils et 2 filles. Il mène une vie familiale parfaite. Un journaliste a pu écrire d'ailleurs, on a dit d'Osler qu'il était un homme complet. Il a tout lu, il connaît les hommes et le monde, mais ce qui est bien mieux, il est simple et humble. Voici ce qu'il dit dans le fait essentiel de ma vie, The Essential Fact of My Life. Après 10 ans d'un travail acharné, édition, composition d'articles, de journaux, de nouvelles, de livres, de pièces de théâtre, j'ai éprouvé un besoin criant de détente et de repos. Alors, ma femme et moi, nous avons décidé de prendre des vacances de 3 mois en Méditerranée. Alors, Casablanca, Naples, Rome, Athènes et Constantinople. Puis de là, le cap sur Haïfa. Haïfa en Palestine. En Israël, si vous préférez. De Haïfa, en voiture vers Nazareth, Jérusalem et le Calvaire. Il continue. Quelle fut ma réaction à moi, le sceptique, à la vue de ces lieux saints fameux dont la célébrité ne reposait, selon moi, que sur des légendes? Eh bien, tout étonné, je sentis monter en moi un passionnant intérêt. Et pendant le voyage de retour, je me suis barricadé dans ma cabine et j'ai écrit à la hâte un sceptique en Terre Sainte. Et au dernier chapitre, je n'étais plus sceptique. Alors le livre paraît tout de même, mais le regard du Christ poursuit Fulton. Il projette désormais d'écrire la vie de Jésus, bien qu'il ne soit pas encore convaincu de l'authenticité du Christ. Il écrit d'ailleurs, pour me préparer cette tâche, j'ai entrepris un examen sérieux de la question. En 3 ans, j'ai lu plus de 1000 ouvrages sur Jésus et le développement du christianisme, depuis les livres récents d'auteurs très divers, jusqu'aux œuvres des premiers pères de l'Église. Je vous parle parfois des pères de l'Église, je vous le répète, ce sont des écrivains très importants qui ont écrit pendant les premiers siècles après Jésus-Christ. Fulton Osler continue, plus je lisais, plus je sentais que l'histoire était vraie. En 1938, je suis retourné en Terre Sainte. À Damas, je suis monté dans une auto blindée pour pénétrer en Palestine. C'était nécessaire. Les sionistes se battaient un peu partout contre les Arabes et la voie ferrée avait sauté entre Haïfa et Jérusalem. Je suis rentré ensuite chez moi et j'ai décidé de travailler à mon livre sur la vie de Jésus. Je l'ai commencé au début de 1939. Je croyais qu'un an me suffirait pour achever l'ouvrage. Il m'en prendrait 10. Peu importe. Malgré mes autres occupations, j'ai tenu bon. J'avais écrit 1/3 du livre à peine lorsque j'ai senti que j'allais devenir catholique. Tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais éprouvé, me convainquait de l'authenticité historique et de la puissance spirituelle du catholicisme. Je me suis mis à aller à la messe chaque dimanche. Et grâce à mon ami Ahmed Abdullah, oui, un arabe, Ahmed Abdullah, un auteur de nouvelles, c'est-à-dire de courts récits, converti de l'islam au catholicisme, j'ai fait la connaissance d'un père jésuite qui m'a donné une instruction plus poussée pendant toute une année. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le dimanche des Rameaux, au début de la semaine sainte, donc, de 1943, l'évêque de New York lui-même reçoit Fulton Osler, ainsi que son fils aîné et une de ses filles. Donc, il y avait 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Donc, il les reçoit tous les 3 dans l'Église de Dieu, l'Église catholique. Et quant à la femme d'Osler, elle appartient déjà à une famille catholique, elle est déjà baptisée. Osler a écrit « 50 ans de négligence derrière moi. Je dois travailler très vite pour rattraper le temps perdu. C'est pourquoi je demande à tous les bons catholiques de prier pour moi. » Il n'a plus, toutefois, que 9 ans à vivre. Il n'a pas encore fini son livre, qu'il est devenu conférencier catholique à la radio. Il dit « Pourquoi ne pas lancer quelque chose de grand sur la vie de notre Seigneur à la radio en me référant au livre que j'étais en train d'achever? » Alors, j'ai discuté le coup avec des personnalités responsables. Et c'est ainsi qu'ont commencé les pourparlers. Sujet, une émission radiophonique tous les dimanches durant l'année. Un certain Litchfield, président des usines de pneus Goodyear Tire and Rubber Company, Goodyear, s'est intéressé au projet. Et avant de prendre sa décision, Litchfield a demandé un échantillon de ce que serait l'émission. Et dans ce but, j'ai dû travailler avec un scriptwriter à adapter une histoire de l'Évangile à la radio. Le producteur s'est assuré un directeur, puis il a réparti les rôles. Il avait aussi préparé un accompagnement musical. Et lorsque tout fut écrit, tout ce que fut enfin prêt, on a joué l'histoire du serviteur ingrat, exactement comme elle serait donnée au poste. On a pris un disque. Monsieur Litchfield, on faisait ça à l'époque, Monsieur Litchfield était enthousiaste. Mais sceptique. Il dit, c'est très bien, mais je me demande, non, vous ne feriez plus aussi bien, ce ne serait pas possible. Alors on signe le contrat, puis la première émission radiophonique de la plus grande histoire qu'on ait jamais racontée, The Greatest Story Ever Told, a lieu le soir du 25 janvier 1947. Pendant toute une année, chaque dimanche soir, ABC, l'American Broadcasting Company, émet sur 200 stations radiophoniques la vie de notre sauveur, de Fulton Osler. L'émission est offerte par la Goodyear Tire and Rubber Company. C'est un des plus impressionnants programmes religieux. Imaginez, 20 millions d'auditeurs en moyenne sont à l'écoute. 20 millions. L'émission coûte 1 million de dollars. La publicité de Goodyear, se faire très discrète, c'est la loi qui l'exige d'ailleurs. On nomme la firme au début et à la fin, la plus grande vie qui fut jamais racontée, présentée par la Goodyear Tire and Rubber Company, puis c'est tout. un peu comme au début de rencontres spirituelles, vous entendez que la lunetterie Farah est heureuse de s'associer à rencontres spirituelles. C'est la même idée. Alors, des feuilles radiophoniques, puis toutes sortes d'organismes, attribuent 11 premiers prix à Fulton Osler. Le New York Times lui-même lui décerne son plus beau prix pour la plus belle réalisation artistique de la radio et de la télévision de l'année. Et tout ce que la radio apporte à Osler, ça lui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est distribué aux bonnes œuvres. Et pendant plusieurs années encore, beaucoup de stations américaines vont émettre, au moment de l'an nouveau, là, au début de l'année, sous le signe du Bon Samaritain, un extrait de l'œuvre d'Osler. Il y a un petit dialogue bref là, que je vous lis entre Caïphe et Anne. C'est Caïphe qui dit « Il faut qu'il soit bien convaincu que le fait de la résurrection est à jamais irréfutable, puisqu'ils bâtissent toutes leurs prédications sur cet argument. » Et Anne lui répond « Nous autres, nous ne pouvons que les tuer, mais eux, ils peuvent nous conquérir. » Alors après sa conversion, Osler écrit une trilogie, « La plus grande vie ». Le plus grand livre, la plus grande foi. The greatest life, the greatest book, the greatest faith. Il est normal qu'un journal le nomme le plus grand homme, the greatest man. 2 ans après le jeu radiophonique La plus grande vie, bien ça paraît sous forme de livre. Chiffre de vente en 10 ans. 2 200 000 exemplaires. Et le nombre de journaux qu'il a publié, en feuilleton, 200 journaux. Alors le converti bouillit d'activité, puis il livre son message en parlant et surtout en écrivant d'une manière originale. Par exemple, sur ce sujet, pourquoi je sais qu'il y a un Dieu, voici ce qu'il écrit. Un jour, un astronome a prétendu prouver l'existence d'une étoile qu'il n'avait jamais vue. Sa science était si précise qu'il a supputé qu'une planète inconnue devait exister quelque part dans notre système solaire pour que s'explique le mouvement des corps célestes tel qu'on le voyait. Et de fait, lorsqu'on a fabriqué de plus grands télescopes, d'autres savants ont trouvé cet astre. Eh bien, c'est ainsi que Dieu se révèle à l'esprit logique, par le mécanisme de l'intelligence. Toutefois, je donne la préférence à une connaissance de première main. On peut lire un livre sur la nage, me disais-je, mais je préfère tout de même plonger dans une piscine et nager vraiment. Nous avons tous du plaisir à nous mouvoir sans contrainte. C'est là la deuxième manière de connaître Dieu, par expérience personnelle. Par expérience personnelle. C'est ainsi qu'on est beaucoup plus heureux. Dans Pouvoir de la prière, une autre œuvre très importante, pleine de fraîcheur, dans laquelle Osler nous fait part de son expérience personnelle, vraiment, il écrit cette petite anecdote charmante. Un matin de printemps, ma mère me recommande de ne pas m'éloigner du perron. Tout à l'heure, me dit-elle, nous irons voir ta tante en nous promenant. Et j'entendis docilement. J'ai attendu jusqu'au moment où le fils du boulanger, qui passait devant chez nous, me traita de poule mouillée. Je bondis aussitôt en bas des marches et je lui donnai une gifle. Il m'a envoyé rouler dans une flaque de boue. Et en voyant ma blouse blanche couverte de taches, mon bas troué aux genoux et barbouillé de sang, je me suis mis à pleurer. Mais un tintement de clochette a arrêté soudain mes larmes. Poussant sa voiture à bras et carillonnant tout le long de la rue, un colporteur approchait et criait « crème glacée, un sou, la crème glacée ». C'était pas cher dans ce temps-là. Alors, oublié de ma désobéissance, je me précipitai dans la maison pour mendier un sou à ma mère et sa réponse restera gravée dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Pendant bien des années, elle lui a dit « Regarde-toi, tu n'es pas en état de rien demander. » Et pendant bien des années, bien, j'ai mené par la suite une vie déréglée avant de me rendre compte que lorsque nous évoquons l'assistance de Dieu, nous devons d'abord nous regarder. Peut-être ne sommes-nous pas en état de ne rien demander. Oui, de ne rien demander. Cet extraordinaire personnage américain, qui est à la fois un détective, un écrivain qui écrit des nouvelles, qui écrit aussi des romans, 300 volumes, qui dirige des revues très importantes, et parmi les plus importantes des États-Unis, qui devient animateur de radio, qui écrit après sa conversion des livres très importants qui se vendent par millions d'exemplaires, et qui a amené à l'Église catholique des milliers et des milliers de gens. Je me souviens qu'après non seulement sa conversion, mais la conversion de quelques autres personnages extrêmement importants aux États-Unis, bien, on a vu des centaines de milliers de gens entrer dans l'Église catholique à l'époque et se faire baptiser. Oui, ça a existé, ça, pendant des années. Il y avait 125 000 baptêmes d'adultes aux États-Unis chaque année. C'était un phénomène absolument fantastique. Alors, ce personnage, Fulton Osler, je répète comment ça s'appelle, Fulton, c'est F-U-L-T-O-N, et Osler, c'est O-U-R-S-L-E-R. Alors, on a vu que il devient un homme de prière grâce à sa mère, qui lui apprend que l'on ne peut pas s'adresser à Dieu n'importe comment. Il faut avoir une certaine assistance de Dieu. Il faut d'abord commencer à nous regarder. Il faut suivre les conseils de Dieu un peu. Il faut se mettre en état de pouvoir demander quelque chose. Il faut d'abord nous réconcilier avec autrui, puis nous mettre en union avec Dieu, c'est-à-dire nous mettre dans un rapport d'amitié à tout le moins, sinon d'amour avec Dieu. Il faut trouver ainsi la paix. Alors il écrit, « Plus nous nous libérons de nos rancunes et de nos inimitiés, plus nous approchons de notre but suprême, qui est la paix intérieure. » C'est là qu'est la paix intérieure. Il dit, nous commençons alors à nous rendre compte que la prière est bien plus qu'une demande de faveur personnelle. Elle est elle-même un don. Elle est plus grande de tous. Elle enrichit sans cesse notre expérience. Elle entretient en nous le sentiment que nous vivons en harmonie avec les forces constructives de l'univers. Elle apporte dans la vie du plus humble des croyants l'ineffable félicité d'un entretien avec Dieu. C'est vrai ça, hein? La prière apporte dans la vie du plus humble des croyants l'ineffable félicité, ce grand bonheur indescriptible d'un entretien avec Dieu. C'est vrai. Oh, que je vous souhaite à tous de pénétrer cette joie, de vous laisser envahir par cette joie. Et Osler ajoute cette petite phrase, « La conscience que nous prenons de cette intimité avec Dieu exerce sur nos pensées et sur nos actes une influence puissante. » Il s'agit aussi de demander ce qui nous est utile. Et c'est pourquoi mieux vaut laisser agir la volonté de Dieu. Il écrit « La promesse divine, demandez et vous recevrez. » N'implique pas l'assurance que vous recevrez exactement ce que vous avez demandé. Bien souvent, nous nous méprenons sur notre véritable intérêt. Quand les dieux veulent mener un homme à sa perte, dit un proverbe de la Grèce antique, les dieux lui accordent ce qu'il demande. Or, nombre d'entre nous ont assez vécu pour se féliciter que leur prière n'a pas été exaucée. Oui, aussi la prudence exige que toute requête s'accompagne de cette réserve,
que votre volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Parce que souvent, si on obtenait ce que l'on demande de Dieu, il y en a beaucoup qui seraient millionnaires. Ils demandent de gagner à la loto. Ou bien ils demandent d'être guéris d'une maladie qui peut-être les amène à réfléchir. Oui, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Ou on demande des choses très égoïstes qui ne finissent que par nous remplir de nous-mêmes plutôt que de Dieu. Alors, il faut élever le niveau de notre prière de demande, mais toujours l'entourer de cette idée que votre volonté soit faite, et non la mienne. La prière aussi, ça nous donne, me semble, une âme large. Ça nous permet d'accueillir aussi ceux qui souffrent autour de nous. Sans prière, c'est impossible. On ne peut pas... Il y a une campagne actuellement qui se fait au Québec pour l'adoption des enfants handicapés. C'est Emmanuel L'Amour qui sauve, qui lance cette campagne. Eh bien, l'adoption des enfants handicapés, l'adoption des gens qui n'ont presque rien à offrir, ça ne peut se faire que dans la prière, je crois. C'est très difficile, autrement. Osle écrit au fur et à mesure que s'élargit notre horizon, nous apprenons à faire des prières moins égoïstes et à nous souvenir des besoins des autres, tant amis qu'ennemis. Mais il faut prier pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis, c'est pas facile. Osle continue, nous commençons alors à intercéder afin d'obtenir la guérison des malades, la consolation des affligés, du travail pour les chômeurs, et pour tous, la miséricorde, y compris pour nos ennemis. Alors, coup sur coup, Osle publie de nouveaux ouvrages. Il rattrape merveilleusement le temps perdu. Il écrit « La vie de Jésus pour les enfants ».« Heureuse grotte », c'est sur Notre-Dame de Lourdes. Il écrit aussi des paraboles modernes qui paraissent dans 65 journaux américains. Même les protestants accueillent ces textes, ils les trouvent merveilleux, puis c'était à une époque où l'entente entre protestants et catholiques n'était pas très grande. Mais ça commençait, heureusement. L'œuvre favorite d'Osle, c'est « Precious Secret », « Secret précieux ». Cette œuvre traite des 8 béatitudes, de la sagesse, puis de la fécondité des vies marquées par l'amour désintéressé et par la serviabilité, comme ceux qui adoptent des enfants handicapés. Ça s'appelle Emmanuel, l'amour qui sauve. Le centre est à Drummondville, mais il y a aussi des gens à Montréal, les Mirons, qui s'intéressent à ça. Ils ont adopté eux-mêmes plus d'une dizaine d'enfants handicapés. En poursuivant la conversion de Fulton Osle a mis son empreinte sur toute sa vie. Il écrit quelque chose de magnifique. Écoutez bien ça. Depuis que je suis catholique, je suis de plus en plus joyeux. Vraiment, je peux témoigner, pas un trésor sur terre qui puisse encore me tenter au point de me faire rejeter la satisfaction spirituelle toujours croissante de mon nouvel état. Je vous le relis, c'est trop important. Depuis que je suis catholique, je suis de plus en plus joyeux. Vraiment, je peux témoigner, pas un trésor sur terre qui puisse encore me tenter au point de me faire rejeter la satisfaction spirituelle toujours croissante de mon nouvel état. La plupart de mes amis accueillir ma conversion d'un air rêveur, on eût dit qu'ils s'apprêtaient à croire, eux aussi, si toutefois ils parvenaient à se délivrer de la maladie du doute. Son énorme puissance de travail à Osle ne fait qu'augmenter après sa conversion, dans le sens de la profondeur et du sérieux, comme écrivain, comme speaker à la radio, comme conférencier, comme éditeur, il est au service exclusif du Christ et de son Église. On tente au début de le contrarier dans le champ de ses activités profanes. Il écrit, une certaine dame a poussé un jour les membres d'une organisation de bienfaisance à voter contre ma nomination au poste de directeur. Elle prétendait que je n'avais plus de volonté libre et que j'étais obligé de voter en tout selon les prescriptions de Rome. Malgré cette opposition, je fus élu, ce qui ne plaide pas tant pour ma petite personne que pour le bon sens de mes concitoyens. Ça rappelle l'élection du président Kennedy, où quantité de gens croyaient que le président Kennedy serait en tout point obligé d'obéir au Vatican sur les moindres détails. Vous souvenez-vous de Boys Town, ça se traduirait par la ville des garçons, du père Flanagan, Father Flanagan aux États-Unis? Ce livre de Fulton Osler, qui décrit le travail magnifique du père Flanagan, Boys Town, la ville des garçons, il a écrit avec son fils Will Osler. Et par ce livre, on voit qu'Osler a adopté l'esprit puis les méthodes du père Flanagan. Cette biographie nous montre bien, d'une façon merveilleuse, les situations sociales qui mènent, malheureusement, au vice. C'est d'une façon, c'est très très clair. Osler s'y montre l'apôtre de la jeunesse qui est moralement abandonnée, comme il y en a tant aujourd'hui. Comme ce pauvre garçon que j'ai adopté comme mon fils, et qui est mort il y a 2 ans. La dernière fois que je l'ai vu, c'est le 7 mai. C'était l'anniversaire hier. C'est très difficile de passer à travers ça. Et on a trouvé son cadavre que le 20 mai. Comme Father Flanagan, Fulton Osler indique fortement qu'à la base de tout système sérieux de rééducation de ces garçons, il faut une perspective chrétienne. Il écrit, le père Flanagan savait qu'une intervention policière, si énergique soit-elle, ne suffit pas si ce n'est pas accompagné d'esprit chrétien. On ne peut ni extirper ni refouler le crime grâce aux seules qualités des tueurs du corps de police, grâce au flair subtil des limiers. La police peut couper les mauvaises herbes, elle ne peut arracher les racines du mal. Il ne s'agit pas seulement ici d'un problème sociologique, mais aussi moral et religieux. Religieux. Quand on prend quelqu'un comme ça qui ne comprend rien aux questions de la foi, et qu'on l'aide à travers les ans, et qu'il arrive à écrire comme mon fils a écrit à mon petit-fils, ce que je vous ai déjà lu, n'oublie jamais, Pascal, que le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu et ta famille avec foi. Eh bien, on est arrivé au but, je crois. Fulton Osler met la main à la pâte. Il ne se contente pas d'écrire, hein, il occupe toutes sortes de postes. Il s'occupe activement de la jeunesse délinquante de son pays. Il apporte même une aide vigoureuse au père Flanagan quand MacArthur appelle celui-ci au Japon pour y édifier une boys town, une ville des garçons en faveur de la jeunesse délaissée au Japon. Une initiative sensationnelle d'Osler après sa conversion, c'est une campagne menée sous le slogan « À chaque shérif son Sherlock Holmes ». Il est déjà professeur réputé de l'Académie nationale de la formation de la police à Washington. Il y a jusqu'à des lignées de Scotland Yard dans son auditoire, oui. Il organise entre autres un cours abrégé de 3 mois pour les shérifs et les autres officiers de la police locale. Il est important qu'un shérif soit au courant de cette façon moderne de travailler, qui est scientifiquement établie, et qui l'aide à dépister tous les malfaiteurs, ou du moins à relever des traces aptes à faciliter le travail de la police fédérale. Il y a en Amérique, aux États-Unis, à cette époque, 100 000 shérifs et officiers de la police, Alors il faut les secouer pour qu'ils viennent volontairement suivre les cours à Washington. Et la plupart s'accrochent à leurs préjugés, des préjugés tenaces, en se méfiant des méthodes scientifiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, même dans cette campagne, apparaît toujours le chrétien chez Fulton Osler. Il écrit, les étudiants de cette académie apprennent également comment prévenir l'acte coupable. C'est-à-dire qu'on leur donne les principes de la rééducation de la jeunesse délinquante. Ils reviennent à leur poste de police non pas uniquement comme de meilleurs chasseurs d'hommes, mais aussi comme des sauveteurs d'enfants. Des sauveteurs d'enfants. Comme fait notre Father John ici à Montréal, et comme font tant d'autres qui travaillent auprès des jeunes actuellement, au Québec, un peu partout, dans le monde entier même. Combien travaillent avec cœur pour vraiment transformer cette jeunesse, l'aider à comprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, à la messe, il y a cette belle lecture de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 15, ce sont les versets 12 à 17, et c'est un extrait du discours de la scène du jeudi soir, c'est le commandement de Jésus à ses amis, et je crois que Fulton Osler l'a mis en pratique. Voici le texte de cet Évangile. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Mais maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Cet évangile s'applique tellement à Fulton Osler qui a débordé d'amour durant surtout les 9 dernières années de sa vie comme chrétien. Après une interview avec Fulton Osler, le fameux magazine World, qui était très réputé à l'époque, a écrit ce qui suit. Osler a confiance dans l'avenir. Cette confiance se fonde sur des conversations avec Einstein, avec Alexis Carrel, dont je vous ai parlé. Je vous ai fait une belle émission sur Alexis Carrel. Enfin, des gens m'ont dit que c'était beau, il avait beaucoup aimé ça. Il a parlé aussi à d'autres maîtres, dit cet article du magazine World. Et ceci lui signale la tendance qui se fait jour dans le monde savant de sortir de l'irréligion. Sortir de l'irréligion. Il ne s'agit pas de sortir la religion des écoles, sortir de l'irréligion. Il ne s'agit pas de sortir la religion de nos journaux, de nos revues. Il s'agit de la faire rentrer une religion éclairée, ouverte, belle, pas une religion mortelle d'ennui, non, une vraie, une grande religion. Donc, je répète, Einstein, Carrel et autres maîtres ont signalé à Fulton Osler la tendance qui se fait jour dans le monde savant de sortir de l'irréligion. cette volte-face des hommes de science, des écrivains et des penseurs est un des faits les plus caractéristiques des années d'après-guerre. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, en 1996? Est-ce qu'on a oublié ça? L'article continue. Osler pense que nous sommes au seuil d'une grande renaissance spirituelle de la foi. Comme on en a besoin. Je poursuis la lecture de cet article. Symbole de cette confiance dans l'avenir, une aquarelle pend au mur du studio d'Osler. On y voit le Christ apparaissant à travers les ruines d'une église bombardée à une jeune femme qui porte un bébé dans ses bras. Osler condamne toute haine entre peuples et entre familles religieuses. Il m'a parlé de prêtres très cultivés qu'il avait entendu prêcher à l'église des Jésuites de Farm Street à Londres. Des hommes au courant des choses du monde, mais aussi de l'amour du Christ et des huit béatitudes. Oui, des Jésuites qui connaissent l'amour du Christ et des huit béatitudes, hein, ils connaissent ça. L'article se termine comme « À coup sûr, si Osler avait été catholique dans sa jeunesse, il serait devenu prêtre. Si grand est son amour pour la vraie religion. » Un autre magazine, Real American, quel étrange nom au titre, Real American déclare à son tour, après une entrevue avec Osler, « Il sait, Osler, qu'il n'y a pas de plus grande récompense que le ciel. Et en silence, il y aspire. En silence, il y aspire. » Dans un article du Reader's Digest, il signale encore cette évolution des savants. Il a beaucoup écrit dans Reader's Digest à l'époque. Une sélection a fait plusieurs traductions de ses livres dans les anciens numéros de cette époque, dans les années 40-50. Donc il écrit dans Reader's Digest, « La science elle-même commence à tempérer son hostilité traditionnelle à l'égard des mystères impénétrables de la foi. Il y a quelques mois seulement, un savant âgé de 82 ans, le docteur Robert Millikan, prix Nobel et directeur de l'Institut technologique de Californie, a déclaré à un groupe d'éminents physiciens qu'après avoir consacré toute sa vie à la recherche scientifique, il était convaincu de l'existence d'une divinité qui préside au destin de l'humanité. Ça me fait penser à la visite que j'ai eue d'un de mes meilleurs amis ces jours-ci, qui est athée, mais qui me dit qu'il a décidé de se marier et d'avoir un enfant. Et j'ai bien hâte de lui dire dans quelque temps, je ne voulais pas troubler ses fiançailles, mais j'ai bien hâte de lui dire s'il pense que ce sera lui qui fera l'enfant. Si ce sera lui qui fera les yeux de cet enfant et le cerveau de cet enfant, et les poumons et son cœur et ses bras et ses mains et ses jambes et... Peut-on faire un enfant? Mais non, ça se fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. Fulton Osler est mort en mai 1952, à 59 ans, d'une crise cardiaque. Et le Reader's Digest, dont il était un des directeurs, a annoncé ainsi sa mort. God bless you, que Dieu vous garde. Chaque fois que Fulton Osler prenait congé d'un ami, il disait God bless you. Les Américains disent souvent ça, God bless you. Et cette revue a tracé le portrait du disparu en terminant par ces mots. Que Dieu vous garde, God bless you. Oui, que Dieu bénisse nos familles, bénisse nos écrivains, bénisse nos penseurs et qu'elle les transforme, que Dieu les transforme et en fasse vraiment des serviteurs du simple bon sens.